Bonjour à tous, Yacouba Ouédraogo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui au sommaire en cette matinée du jeudi 6 juin 2024. Au Mali, les avocats du colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la sécurité d'État, aujourd'hui emprisonné, alertent sur sa disparition. Toujours au Mali, une grève très suivie des banques a pris fin après la libération des responsables syndicales. En Guinée, la défense de l'ancien président Moussa Dadis Camara plaide son acquittement au procès du massacre du 28 septembre 2009. La Cour d'assises de Bruxelles condamne Emmanuel Nkundiwimye à 25 ans de réclusion pour sa participation au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Adoption hier par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un projet de résolution américaine soutenant le plan de cessez-le-feu à Gaza. En sport, suite ce mardi des matchs de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique, les détails dans un peu plus de 10 minutes juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. Au Mali, les avocats du colonel Kassoum Goïta, ancien chef de la sécurité d'État aujourd'hui emprisonné, donnent l'alerte sur sa disparition après son extraction de sa cellule à Bamako il y a 10 jours. À ce jour, ses conseils ainsi que sa famille n'ont reçu aucune information le concernant et n'ont pu avoir aucun contact ni direct ni indirect avec lui. C'est ce qui ressort d'un communiqué du collectif d'avocats qui le défend. Ils affirment que le colonel Kassoum Goïta a fait l'objet d'un enlèvement dans sa cellule par des éléments étrangers au système judiciaire. Le 31 mai, lui et 5 autres hommes, dont l'ancien secrétaire général de la présidence, Souban Dao, ont été arrêtés et détenus au secret en septembre et octobre 2021. L'appareil judiciaire a indiqué en novembre 2021 qu'ils étaient mis en cause pour tentative présumée de coup d'État. Mali toujours, une grève très suivie des banques à l'approche de la fête musulmane de la Tabaski a pris fin hier lundi après la libération des responsables syndicaux arrêtés il y a 5 jours. Le point avec Dili Diko.
Nous avons le plaisir de vous informer de la mise en liberté de notre camarade, secrétaire général Amadou Nba, a dit dans un communiqué Abdoulaye Keïta, premier secrétaire adjoint du syndicat. En conséquence, le mot d'ordre d'arrêt de travail est levé et nous invitons tous nos militants à reprendre le travail, a-t-il poursuivi. Lundi matin, presque toutes les banques de la capitale Bamako étaient fermées. À 5 jours de la fête de l'Aïd al-Adha, les Bamakois se trouvaient bloqués dans les préparatifs de la fête. Amadou Nba, leader de la puissante Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a été arrêté mercredi à la suite d'une plainte déposée par un ancien membre de son comité syndical qu'il a ensuite retiré. Monsieur Ba, l'un des rares à oser émettre publiquement des critiques contre la justice malienne, a été inculpé de faux et usage de faux et placé en détention dans une prison de la capitale. Le procureur du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako a ordonné lundi sa libération.
En Guinée, la défense de l'ancien président Moussa Dadis Camara a plaidé son acquittement lundi au procès du massacre du 28 septembre 2009. Elle assure qu'il est étranger au bain de sang et a tout fait pour l'empêcher. Le point avec Rosine Munezero.
Je vous prie de bien vouloir acquitter le capitaine Dadis. Il doit rentrer chez lui. Il n'a rien fait, a déclaré Maître Almami Samori Traoré devant la cour qui juge son client et 11 autres responsables guinéens depuis 2022. Ils sont accusés, entre autres, d'assassinat, torture, viol, enlèvement et pillage commis en masse le 28 septembre 2009 et les jours suivants. Moussa Dadis Camara a toujours argué avoir été dépassé par ses subalternes et a décliné toute responsabilité. Le procureur a refusé toute circonstance atténuante aux accusés en invoquant leur absence de regret. La défense s'est inscrite en faux et a assuré au contraire que l'ex-président a exprimé sa compassion à plusieurs reprises lors de ses auditions. Le procureur a requis fin mai la réclusion à perpétuité contre Moussa Dadis Camara et 6 autres accusés et la requalification des faits en crime contre l'humanité. Au moins 156 personnes ont été tuées et des centaines blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de Conakry et ses environs, selon le rapport d'une commission d'enquête mandatée par l'ONU. Au moins 109 femmes ont été violées en public.
La Cour d'assises de Bruxelles a condamné à 25 ans de réclusion un Belgo-Rwandais de 65 ans pour sa participation au génocide des Tutsis au Rwanda. En 1994, Emmanuel Nkundumwimiye tenait un garage et était proche de plusieurs chefs miliciens de l'époque, selon l'accusation. Le point avec Nanit Talani.
Jugé depuis début avril, Emmanuel Nkundumwimiye a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes de génocide pour une série de meurtres ainsi que le viol d'une femme tutsi assorti d'une tentative de meurtre. Le parquet avait requis 30 ans de réclusion. Sa défense avait réclamé son acquittement en arguant un manque de fiabilité des témoins à charge. Arrêté en Belgique en 2011, l'accusé a nié les faits. Lors du déclenchement du génocide, Emmanuel Nkundumwimiye tenait un garage de réparation au lieu-dit Amgar à Kigali, au sein d'un complexe de bâtiments qui fut le théâtre de massacres commis par des miliciens interahamwe. Il était proche de plusieurs chefs miliciens, dont Georges Rutaganda, condamné à la prison à vie par la justice internationale à Arusha en Tanzanie et décédé en 2010. Selon le jury de la cour d'assises, c'est donc en connaissance de cause que Nkundumwimiye leur a apporté son aide et ils ne pouvaient ignorer les exactions commises. Lors du procès, l'accusé a aussi été formellement identifié par la femme qu'il a violée, venue témoigner à huis clos. Le procès d'Emmanuel Nkundumwimiye était la 7e audience d'assises organisée depuis 2001 en Belgique en lien avec ce génocide.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier lundi un projet de résolution à l'initiative des États-Unis soutenant le plan de cessez-le-feu à Gaza. Parallèlement, Washington mène une intense campagne diplomatique pour pousser le Hamas à accepter cette proposition en trois phases. Les détails avec Eric Manirakis.
Le texte qui salue la proposition de trêve annoncée le 31 mai par le président américain Joe Biden a recueilli 14 voix pour. La Russie s'est abstenue. La résolution appelle Israël et le Hamas à appliquer ses termes pleinement, sans délai et sans condition. Cette proposition assure aussi, contrairement aux précédentes versions, que le plan a été accepté par Israël. Le plan prévoit, dans une première phase, un cessez-le-feu de 6 semaines accompagné d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Il indique notamment que si la première phase prend plus de 6 semaines, le cessez-le-feu sera maintenu aussi longtemps que les négociations se poursuivront. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est de retour au Proche-Orient. Après l'Égypte hier, il s'est rendu en Israël pour promouvoir son plan de cessez-le-feu. Le Hamas n'a toujours pas réagi à cette proposition.
Justement, après le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoann Gallant, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken rencontre ce mardi à Tel Aviv Benny Gantz, membre démissionnaire du cabinet de guerre israélien, puis le chef de l'opposition Yair Lapid, avant de se rendre en Jordanie. En France, le Rassemblement national recueille 34% d'intention de vote pour les législatives anticipées. Le parti d'extrême droite gagne plus de 15 points de plus qu'il y a 2 ans. Selon un sondage paru hier lundi, au lendemain de l'annonce surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé hier soir à Berlin où il va rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz et participer à une conférence sur la reconstruction de son pays. L'Allemagne a récemment autorisé l'Ukraine à utiliser des armes allemandes pour frapper des cibles en Russie, ce qu'elle hésitait jusqu'à présent à faire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
La croissance du PIB du Cap-Vert devrait rester stable en 2024 à 4,7%, assure le FMI. Il prévient toutefois qu'il y a des risques persistants sur une éventuelle hausse des prix des matières premières, une demande extérieure plus faible sur les marchés touristiques et des progrès limités dans le programme de réforme des entreprises publiques. Le changement climatique reste également une menace en raison de la grande vulnérabilité du pays. les efforts du Kenya relatifs à l'intégration commerciale pourraient contribuer de manière significative à une croissance économique substantielle et à la création d'emplois, note la Banque mondiale, qui se concentre particulièrement sur le rôle de l'intégration commerciale dans la promotion de la croissance économique et de la création d'emplois. D'après l'institution, l'agriculture est le principal contributeur aux exportations du Kenya, suivi par les minéraux et les produits chimiques. Pour terminer, le cuivre a rebondi ce lundi après une baisse de 5 mois, l'attention se portant sur le potentiel d'une hausse de la demande. Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange s'est négocié en hausse de 0,7% à $9,829 contre $9,741 le 2 mai.
Sans transition, les nouvelles sportives avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Yakuba.
Suite à ce mardi des matchs de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique.
C'est la grosse performance de la journée. Le Nigeria, vice-champion d'Afrique, est tombé devant le Bénin 2-1. Grâce à cette victoire, les Béninois pointent à la première place du groupe C avec 7 points. Les Pharaons ont fait match nul 1-0 contre la Guinée-Bissau. Le salut égyptien est venu de Mohamed Salah qui évite une première défaite au sien dans cette campagne qualificative. Algérie 2, Ouganda 1, les Fennecs ont longtemps balbutié leur football avant de trouver l'un but. Après la défaite à domicile face à la Guinée, l'Algérie se relance et prend la tête du groupe G avec 9 points. Le Botswana a maintenu ses espoirs de qualification en s'imposant 3-1 face à la Somalie lundi à Maputo, tandis que la Guinée équatoriale a remporté sa première victoire dans les éliminatoires en battant le Malawi 1-0 à Malabo. La Guinée s'est inclinée devant le Mozambique par 1-1, tandis que le Burkina et la Sierra Leone se sont séparés sur un score nul de 2-2. Enfin, le Liberia a remporté une victoire cruciale 1-0 sur Sao Tomé et Principe dimanche dans le groupe H.
Et puis le président de la FIFA, Gianni Infantino, salue un pas positif après la condamnation à la prison de supporters de Valence.
Le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a estimé lundi que la condamnation en Espagne de 3 supporters de Valence à 8 mois de prison pour insultes racistes envers le joueur brésilien Vinicius constituait un pas positif. Le président de la FIFA a ajouté qu'il poussait pour la reconnaissance du racisme comme infraction pénale dans tous les pays du monde et là où c'est déjà le cas, comme en Espagne, pour des poursuites avec la sévérité qu'elle mérite. Les 3 jeunes Espagnols condamnés à 8 mois de prison étaient poursuivis pour avoir proféré des insultes et des cris racistes à l'encontre de Vinicius le 21 mai 2023 lors d'un match de Liga et le Valence FC au stade Mestalla.
En règle, Di Maria permet à l'Argentine de battre l'Équateur 1-0 en amical.
L'ailier de Benfica, nommé capitaine pour cette rencontre alors que Lionel Messi était sur le banc, a inscrit son 31e but international à la 40e minute d'un match divertissant au Soldier Field. Le joueur de 36 ans a cédé sa place à Messi à la 56e minute, mais la star de l'Inter Miami n'a pas pu aider l'Argentine à aggraver le score.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Yakuba Ouidraogo, toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Au Mali, reprise des activités dans le secteur bancaire et des stations de Bamako, après la levée du mot d'ordre de grève par le syndicat des banques et assurances, cela après la libération de son secrétaire général Amadou Ba. Toutefois, cette grève a eu des conséquences sur les usagers qui ne découlèrent pas. Reportage à Bamako de notre correspondant
Mohamed Danyoukou.
Au siège du syndicat national des banques et établissements financiers, le temps semble avoir suspendu son vol depuis l'arrestation de son secrétaire général, Amadou Ba, également premier vice-président de l'Union nationale des travailleurs du Mali, la plus importante centrale syndicale du pays. Arrêté suite à la plainte d'un autre syndicaliste, sa libération était impatiemment attendue par chacun ici. Adama Sidibé, secrétaire à l'information du CINABEF.
Grâce à, vraiment au bureau exécutif, nous remercions l'ensemble de nos militants et militantes vraiment qui nous a accompagnés de cette lettre d'arrêt de travail pendant ces quelques jours-là. Et aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu puisque nous sommes avec notre camarade Amadou Ba aujourd'hui.
Stations et banques fermées, des citoyens qui sont obligés de prendre leur mal en patience. Voici le décor de la ville depuis le mercredi dernier. Cette mise sous mandat de dépôt de Amadou a déclenché une grève de plusieurs banques et stations d'essence avec des conséquences que les usagers peinent à digérer. Ibrahim Azier Koulibaly, client.
Ce que les syndicats des banques et établissements financiers sont en train de faire, ça c'est une prise d'otage de tout un peuple. Je le dénonce. Je pense que ce n'est pas la manière. Aujourd'hui, regarde les stations et autres. Heureusement qu'il y a des privés qui travaillent, qui font qu'on peut aller baguer à nos courses et autres. Sinon, ça aurait ne pas été le cas. Le pays sera pratiquement immobilisé. Ça, ce n'est pas normal. Et puis encore, on a nos salaires là-bas. Nous aussi, on peut déposer plainte contre eux.
Autant de facteurs qui révoltent davantage les clients contre le CINABEF, estimant qu'ils sont victimes de querelles personnelles. Alassane Cissé, journaliste.
Ça a causé beaucoup de désagréments. Parce qu'il y a des gens qui ont leur argent dans les banques. Et on est à l'approche de la fête. Il faut voir seulement. Hier, moi, j'ai failli même emprunter de l'argent pour pouvoir faire mes quelques achats. C'est pas aisé. Il y a beaucoup de gens. Imaginons des gens qui sont à l'hôpital. S'il faut aller prendre de l'argent pour payer des médicaments, c'est un problème. Les chefs de famille, ça, c'est vraiment, ça a causé beaucoup de désagréments.
À la mi-journée, la nouvelle de sa libération a fait le tour des réseaux sociaux, suivi d'un communiqué de son syndicat levant le mot d'ordre d'arrêt de travail. La course aux opérations bancaires à partir de demain mardi risque de se prolonger jusqu'à la fête de Tabaski prévue pour le 17 juin prochain. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Dans l'état du Darfour Nord, au Soudan, les personnes déplacées et les médecins affirment que les forces de soutien rapide attaquent les hôpitaux et les camps à El Fasher, capitale de l'état. Des ONG affirment que le monde ne prête guère attention à la destruction d'une ville censée être un refuge pour les personnes chassées de chez elles par la guerre au Soudan. Un reportage de Henry Wilkins, récit Rosine Mounessero.
El Fasher, la capitale de l'état du Nord Darfour, était censée être sûre. Environ 800 000 personnes déplacées par les combats et l'épuration ethnique présumée dans la campagne environnante du Darfour ont fui ici dans l'espoir de trouver un refuge. Mais depuis la mi-avril, El Fasher est également devenue une zone de guerre. Les camps de réfugiés ont été pris entre deux feux et même bombardés, alors que l'armée soudanaise affronte les forces de soutien rapide pour le contrôle de la ville. Plus de 12 000 personnes ont été tuées selon Médecins sans frontières. Depuis El Fasher, Adam Royal, porte-parole d'une organisation locale qui aide les déplacés au Darfour, a déclaré à la VOA que les personnes ne se soucient pas des belligérants, mais veulent simplement que les combats cessent.
Ils ne sont pas des patriotes, car ils se battent pour leurs propres intérêts. Le seul perdant est la société soudanaise, en particulier les habitants du Darfour. Les gens ont tout perdu, même les besoins fondamentaux de la vie humaine, comme la nourriture, l'eau, les abris et les médicaments. Les mots ne suffisent pas à décrire la gravité de la situation.
Claire Nicolette travaille pour Médecins sans frontières, qui gère des installations médicales à El Fasher. Selon elle, l'une des maternités a été bombardée, ainsi que l'hôpital principal.
Le toit s'est effondré sur les bébés qui étaient à l'intérieur de l'hôpital et nous avons dû fermer après la mort de deux enfants. L'hôpital, je peux le dire, qui reçoit tous les blessés en ce moment, a été touché 4 fois en 10 jours.
Et piller ses équipements, dont une ambulance, a dénoncé l'ONG sur son compte X dimanche soir. Claire Nicolette de Médecins Sans Frontières a déploré que les appels de l'ONU, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et d'autres membres de la communauté internationale pour mettre fin au combat sont restés lettres mortes et que la situation ne fait qu'empirer et la violence est aveugle.
Nous entendons parler de drones maintenant, on entend parler de snipers, donc on voit que la situation ne cesse de se détériorer. C'est une sorte de guerre totale à l'intérieur de la ville, malheureusement. Il n'y a aucune protection des civils, aucune protection des structures de santé. C'est ça la réalité.
Adam Royal, porte-parole des personnes déplacées et des réfugiés du Darfour, explique que les combats ont empêché les gens de quitter la ville et les groupes d'aide de livrer de la nourriture aux personnes affamées à l'intérieur de la ville.
En réalité, la plupart des familles vivent dans des conditions désastreuses, moi y compris, parce que nous ne recevons pas notre part de l'aide du programme alimentaire mondial en raison de mauvaises conditions de sécurité et du blocus.
Chaque jour, il envoie désespérément des photos d'enfants mal nourris à la presse pour tenter d'attirer l'attention du monde. Les ONG se plaignent de la faiblesse des dons et du peu d'intérêt pour la crise soudanaise, en partie à cause des guerres en Ukraine et à Gaza, tandis que les groupes de défense des droits de l'homme critiquent l'ONU et l'Union africaine de ne pas en faire assez.
En France, une onde de choc a traversé l'opinion et le monde de la politique après la victoire de l'extrême droite aux législatives européennes. Les politiques s'accordent à reconnaître que c'est l'élection qui aura les conséquences les plus lourdes pour la France, pour les Français et l'histoire de la Ve République. Jean-Roger Billon a joint le directeur des recherches à l'IRIS, Federico Santopinto, directeur de recherche à l'IRIS en France.
Il y a avant tout un vote de protestation vis-à-vis des pouvoirs en place, surtout en France, mais également dans d'autres pays comme la Belgique et l'Allemagne. Et ça, ça paraît assez clair. Je pense également qu'il y a aussi un rejet de celle qui est perçue comme une politique migratoire qui serait favorisée par l'Union européenne, mais qui en réalité ne l'est pas, pour être sincère. Mais en tout cas, ainsi elle était présentée aux électeurs. Et je pense que c'est surtout également, pour ce qui concerne le cas plus spécifique de la France, un rejet vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui est un président très contesté depuis maintenant pas mal d'années.
Le chef de l'État français a profité de la défaite de son camp lors de cette élection pour dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'il défend une décision en toute conscience. Est-ce que c'est pas un pari risqué?
Oui, il y a beaucoup d'inquiétudes en France par rapport à cette dissolution de l'Assemblée nationale parce que désormais, il n'est pas impossible d'imaginer que le Rassemblement national ait la majorité. Je vous rappelle que lors des élections législatives qui se tiendront, si je ne me trompe pas, le 30 juin, donc très proche, et le 6 juillet pour le deuxième tour, c'était des élections qui se tiennent en 2 tours. Et donc, dans le cadre d'un deuxième tour à la majorité, le Rassemblement national, donc l'extrême droite, pourrait avoir la majorité absolue au Parlement et donc devrait former un gouvernement de cohabitation avec Emmanuel Macron. Et ça, c'est un scénario catastrophe qui est effectivement perçu comme étant extrêmement dangereux. Ceci dit, je pense que Macron a décidé de mettre l'extrême droite devant ses responsabilités, étant donné que depuis quelque temps elle gagne pas mal dans les élections locales ou européennes. Il s'est dit, maintenant il faut que vous montriez ce que vous savez faire si vous voulez vraiment être un parti de gouvernement. Il veut un peu les mettre à l'épreuve et sans doute aussi, par ailleurs, les mettre en difficulté.
Alors, quelles seraient les éventuelles conséquences sur les relations entre la France et l'Afrique si, d'aventure, l'extrême droite remportait cette élection à venir?
Je pense qu'il n'y aurait pas forcément un impact immédiat sur les relations entre la France et les pays africains. Par contre, avec l'extrême droite au pouvoir, les politiques migratoires seraient beaucoup plus strictes en France, et ça, à terme, pourrait peut-être créer des frictions avec certains pays africains. Mais dans les relations diplomatiques entre la France et les pays africains, je ne pense pas que les choses vont forcément évoluer, car l'objectif de l'extrême droite est surtout de limiter au maximum l'immigration. et de fermer substantiellement les portes à l'immigration, qu'elle soit d'Afrique ou d'ailleurs.
Ici aux États-Unis, le nombre d'adultes qui s'identifient avec un genre autre qu'hétérosexuel se maintient à environ 7,2%. Et les deux candidats à la présidentielle en prennent note. Caroline Prisouti, correspondante de la VOA Washington, nous explique comment ils tentent d'attirer cette tranche de la population. Récit Jacques Aristide.
Un sondage de Gallup indique qu'un peu plus de 7% des adultes américains sont lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou remettent en question leur sexualité, ce qu'on appelle LGBTQ. Cette communauté avait protesté contre une annonce faite sur Twitter en 2017 par le président de l'époque, Donald Trump, interdisant aux personnes transgenres de servir dans l'armée. Moins d'une semaine après son arrivée à la Maison-Blanche, le président Joe Biden a annulé cette interdiction.
Le personnel transgenre, s'il est qualifié dans d'autres domaines, peut servir dans l'armée américaine.
Sarah Kate Ellis est présidente et directrice générale de GLAAD, une organisation de défense des droits LGBTQ.
C'est un véritable soulagement d'avoir une administration qui comprend qui nous sommes et qui nous valorise en tant que citoyens américains.
Également au cours de son mandat, le président Biden a signé la loi sur le respect du mariage qui accorde des droits et des avantages fédéraux aux couples de même sexe. Voici ce qu'il a dit à la communauté LGBTQ lors d'un événement à la Maison-Blanche.
You are loved.
Vous êtes aimé, vous êtes entendu, vous êtes compris et vous avez votre place.
Randy Bravo dit qu'il votera pour Biden.
En tant qu'homosexuel, vous savez, beaucoup de mes droits peuvent être menacés par les autres partis. Donc, une partie de la raison pour laquelle je soutiens Biden, comme je l'ai fait pour son premier mandat, est par rapport à ce qu'il représente.
L'ancien président Donald Trump a été le premier président à nommer un membre de cabinet ouvertement gay, mais il a adopté une position globalement plus conservatrice. Il a dit « Dieu a créé deux genres, hommes et femmes ».
Que se passe-t-il avec les pronoms? Si vous l'étudiez vraiment et le regardez de près, c'est dément, c'est dingue. Je protégerai ce qui est pro-Dieu. Nous allons protéger ce qui est pro-Dieu.
C'est une rhétorique que soutiennent ses électeurs, comme Thomas Isbell, présent à un rassemblement de Trump dans l'Ohio.
Le camp républicain s'aligne davantage sur ce que dit la Bible en termes d'interdiction de l'avortement, en termes d'élimination de LGBTQ.
Le président Biden a condamné les lois des États conservateurs restreignant la chirurgie de conversion de genre et les cours sur l'orientation sexuelle. L'ancien président Trump a fait des promesses à ce propos sur son site de campagne.
Dès le premier jour, je révoquerai les politiques cruelles de Joe Biden sur les soi-disant soins d'affirmation du genre. C'est ridicule. Un processus qui consiste à administrer aux enfants des bloqueurs de puberté, à modifier leur apparence physique et finalement à opérer des mineurs.
Pour le démocrate Brad Woodhouse, c'est le parti républicain traditionnel que veulent les électeurs républicains.
Ils sont anti-immigration, anti-transgenre, anti-gay, et Trump le savait. Il l'a accepté et il l'a gardé.
La population LGBTQ a aidé Biden à remporter les États clés en 2020. Un sondage de GLAAD montre le même fort soutien de cette tranche à Biden. En revanche, les électeurs de cette communauté réclament au Parti républicain de se focaliser sur l'économie plutôt que de restreindre leurs droits.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yacouba Ouédraogo, Sims Lumami à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.
If I should stay.